à ce moment-là, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Donc, chapitre 1, verset 14. Et le chapitre 1er continue en montrant que cette prière est mise en application. Donc, il y a l'explication comment le traître Judas fut remplacé par Joseph, appelé Barsabbas. Et donc, Joseph va prendre la place donc, d'apôtre, avec la mention qu'ils prièrent donc, pour que le Seigneur guide leur choix. Verset 24. On voit donc que les premiers chrétiens attachés au Seigneur Jésus, qui reçurent donc cette dernière recommandation, qui furent témoins de l'ascension de leur Seigneur et qui eurent le bénéfice de la promesse de son retour, ces premiers croyants comprirent qu'ils devaient être ensemble. Ils devaient être ensemble pour attendre la promesse du Seigneur. Donc, ces premiers croyants comprirent qu'ils devaient être ensemble pour attendre la promesse donc du Seigneur. Et certainement pour se consoler de quoi ? Mais du départ de Jésus, du départ de Jésus, et de s'encourager aussi dans leur foi en lui. Vous savez, bien sûr, ils l'ont vu ressusciter, mais combien le cœur de l'homme est incrédule, combien ils avaient alors besoin donc, de s'encourager, de dire, mais attachons-nous à lui, attachons-nous à lui. Et pour qu'ils s'attachent à lui, pour qu'ils s'attachent à Dieu, eh bien, ils avaient besoin aussi de prier ensemble, que Dieu les aide. Et ceci, je vous le fais remarquer, nous sommes au chapitre 1, la Pentecôte est au chapitre 2. Pourquoi ? Parce que donc, il n'y a pas besoin du Saint-Esprit pour qu'ils aient compris, et certainement l'Esprit a déjà travaillé leur cœur pour qu'ils comprennent l'importance de qui était Jésus, qui est Jésus pour eux, et que Dieu leur a donné Jésus pour eux. Et que ce Jésus n'étant plus là, ce changement qui n'est pas des moindres, c'est que le Seigneur n'est plus là. Certes, il est là en esprit, mais il n'est plus là physiquement. Et vous savez que, en tout cas, moi, je suis plus convaincu que quelqu'un est là quand il est là physiquement qu'en esprit. Le besoin de la présence du Seigneur devait alors se faire ressentir, car le Seigneur n'était plus là physiquement. Et dans leur attachement à sa personne, ils se tournaient alors dans la prière vers lui, pour être encore avec lui, mais ceci par la prière. Jésus, présent au milieu d'eux, pouvait dialoguer, c'est vrai, avec lui, et il pouvait jouir de sa présence et de ses bienfaits, mais n'étant plus là physiquement, la prière était le seul moyen qui leur restait pour être en lien avec le Seigneur. N'étant plus là physiquement, les disciples percevaient combien la présence de Jésus leur était précieuse. L'absence de Jésus les plaçait devant leurs besoins, besoin de Dieu, besoin du Seigneur Jésus, de sa présence et de son action en leur faveur. Ils savent alors qu'ils dépendent de lui à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'il n'est plus là. Et d'un coup, ce manque est là. Et ils savent qu'ils dépendent de Dieu. Et ils ne peuvent alors que prier et demander à Dieu et au Seigneur leur aide. Sachant qu'ils vont avoir besoin de la puissance du Saint-Esprit, on peut penser qu'aussi que ces prières avec persévérance étaient aussi celles de dire, Seigneur, envoie ton Esprit, cet Esprit qui doit nous aider donc, à vivre cette absence physique, pour que nous comprenions que tu es bien avec nous en Esprit. Donc ce besoin de Jésus et de Dieu, qui a certainement motivé, qui a certainement poussé ces premiers chrétiens à prier avec persévérance, sans avoir reçu l'Esprit de Dieu, doit nous parler dans notre vie, pour notre vie de prière. Nous qui connaissons et qui avons l'Esprit, le Seigneur Jésus, nous qui connaissons son œuvre et savons notre besoin de lui et de Dieu, nous qui savons combien nous dépendons du Seigneur Jésus et de Dieu, à combien plus forte raison devrions-nous être des hommes et des femmes de prière qui persévèrent, pourquoi ? À nous placer dans la présence de Dieu et du Seigneur, pour être avec eux, en ouvrant nos cœurs devant eux par la prière. Ce qui doit motiver notre désir de prier, c'est pas « tu dois prier », mais c'est ce désir de vivre des temps avec le Seigneur. C'est notre amour pour lui, comme quand nous avons quelqu'un que nous aimons être avec. Donc c'est notre amour pour le Seigneur qui fait que nous avons le désir d'être avec, et ceci par la prière. C'est notre besoin de lui, d'être avec lui, de lui parler de notre amour. mais aussi de ce que nous avons sur notre cœur, de nos attentes, de ses promesses. Oui, c'est cela qui doit aussi motiver nos prières. Et si nous ne sommes pas motivés dans nos prières, nous devrions peut-être donc demander à Dieu de nous montrer encore plus qui est Jésus pour nous, qui il est pour nous par Jésus. Et que ceci nous pousse alors à être des adorateurs, mais aussi des intercesseurs devant lui. Mais voyons maintenant une autre raison de ce changement. Et là encore, pas des moindres. En effet, il va y avoir la Pentecôte, la réalisation du don du Saint-Esprit sur les premiers chrétiens qui est décrite au chapitre 2. À partir de ce moment-là, le don de l'Esprit sera donné à chaque personne qui se convertit au Seigneur Jésus. Le don de l'Esprit-Saint va permettre une présence et une action de Dieu dans le cœur de ces premiers chrétiens, comme il le fait encore aujourd'hui dans nos cœurs. Cette œuvre de Dieu par son Esprit va leur donner une nouvelle naissance spirituelle et les aider à devenir des adorateurs et intercesseurs. C'est pourquoi la persévérance dans la prière devient une caractéristique remarquée de l'Église primitive qui est conduite par l'Esprit-Saint. Comme cela est dit à la fin du chapitre 2, dans la description de cette première communauté qui se met en place suite à l'effusion du Saint-Esprit. Ainsi, l'Esprit-Saint nous aide à être des hommes et des femmes de prière. C'est là un aspect de l'œuvre qu'il veut faire en nous, être des hommes et des femmes qui parlent à Dieu. Et dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, l'apôtre Paul souligne que nous bénéficions de l'assistance de l'Esprit de Dieu pour prier. Cela doit nous interpeller si notre vie de prière est irrégulière, si nous avons du mal à prier régulièrement en prenant un temps personnel devant Dieu, si nous ne savons pas prendre du temps pour prier avec nos frères et sœurs, car tout cela, Dieu le veut. Et si Dieu le veut, l'Esprit le veut aussi, donc le placer dans notre cœur, avoir ce désir de prier. Et il agit pour cela. Si nous n'avons pas de plaisir à prier, alors nous devons nous poser la question. Oui, est-ce que l'Esprit de Dieu travaille mon cœur? Et quand l'Esprit agit en nous, il place en nous alors le désir de prier, d'adorer, de louer Dieu, d'intercéder. Et si ce n'est pas le cas, venons à Dieu avec cette attente de laisser son Esprit agir en nous. Demande-lui qu'il transforme notre cœur par son Esprit pour devenir de plus en plus donc des enfants de Dieu qui aiment le prier. Voyons une autre raison de ce changement, qui est encore en lien avec l'œuvre du Saint-Esprit en nous, en eux. À la fin du chapitre 2, au verset 47, il est écrit que les premiers chrétiens louaient Dieu avec persévérance. Ils louaient Dieu pour ce que Dieu a fait à leur égard, et certainement pour le don et l'œuvre de Jésus. Dans l'évangile de Jean, il est rapporté dans les chapitres 14 à 16 les propos de Jésus au sujet de l'œuvre que fera l'Esprit de Dieu en faveur des disciples de Christ. « L'Esprit prendra, dit donc Jésus, ce qui est à moi et il l'annoncera, il vous l'annoncera, il l'annoncera aux disciples. » Chapitre 16, verset 14 de Jean. Les premiers chrétiens, par l'action du Saint-Esprit, vont donc être au bénéfice du rappel de ce que Jésus avait fait, avait dit, et quand il était avec eux, qui souligne qu'il est bien alors le Sauveur et le Seigneur. Et là, l'Esprit va certainement les convaincre encore plus donc, de cela. Et ils furent certainement aussi au bénéfice de révélations sur Jésus et cette compréhension plus complète de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, les amène à avoir alors un cœur plus reconnaissant, un cœur rempli de louanges. De même, ce qui doit motiver notre cœur à prier, c'est cette compréhension de qui est Jésus pour nous, de ce qu'il a fait et fait encore pour chacun de nous. C'est pourquoi demandons à Dieu que son Esprit nous donne encore plus de connaissance de notre Seigneur Jésus, afin que notre amour et reconnaissance débordent en prière de louange envers notre Dieu. Une autre raison de ce changement est en lien avec leur compréhension et leur acceptation de ce que le Seigneur leur a confié. C'est clair pour eux. Ils avaient compris que le Seigneur leur avait confié la responsabilité d'apporter la bonne nouvelle en son nom. Dès le début, Dieu se sert des apôtres pour témoigner de la personne et de l'œuvre du Christ Jésus. Mais ce n'est pas sans rencontrer de l'opposition de la part des responsables religieux juifs, donc que cette annonce de l'Évangile va se faire. Au chapitre 4, les apôtres Pierre et Jean sont arrêtés pour avoir enseigné au peuple la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus. Ils comparaissent alors devant le Sanhédrin, les responsables juifs, religieux, qui vont leur interdire de continuer à témoigner au peuple en parlant du Seigneur Jésus. Puis, ils les libèrent. Se rendant alors auprès des autres disciples, Pierre et Jean donc racontent alors ce qui leur est arrivé et l'interdiction du Sanhédrin. Et au verset 24 du chapitre 4, nous lisons que lorsqu'ils eurent entendu leur rapport d'un commun accord, donc ils élevèrent la voix vers Dieu pour demander qu'ils soient attentifs à ces menaces. Tu les vois, Seigneur, ces menaces. Donc nous savons que tu es au-dessus de tout cela. Et pour qu'il leur donne d'annoncer la parole en toute assurance, tout en appuyant leur message de signes, de prodiges venant du ciel. Les apôtres et disciples donc avaient compris que la mission que Jésus leur avait confiée était qu'ils soient témoins de sa personne et de son œuvre de salut. Et ils étaient zélés, ils avaient compris cela, ils étaient zélés pour le faire, pour témoigner. Mais l'opposition était bien là. Et ils savaient qu'ils pouvaient s'en remettre au Seigneur par la prière pour que Dieu les aide à accomplir cette mission, quoi qu'il en coûte. De même, ce qui doit nous motiver à prier Dieu, c'est la compréhension et l'acceptation. Ça, c'est aussi important. La compréhension et l'acceptation de la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée. Annoncer l'Évangile au peuple, à ceux qui nous entourent. Même si nous n'avons pas la même opposition que du temps des apôtres, si nous comprenons que nous avons besoin du Seigneur pour lui obéir et bien témoigner de sa personne et de son œuvre envers les hommes, si nous comprenons que nous avons besoin que Dieu ouvre les portes et les cœurs des hommes à la réception de l'Évangile, car il y a une véritable opposition de l'ennemi de Dieu. Alors, si nous comprenons cela, nous ne pouvons que persévérer dans la prière pour nous attendre à Dieu, au Seigneur, afin de le voir agir dans les vies en se servant de chacun de nous, en se servant de son Église. Malheureusement, bien souvent, une des causes que nous ne voyons pas de conversion, c'est que nous n'en faisons pas un combat dans la prière afin que Dieu agisse à travers nous et avec puissance. Et une des causes aussi qui fait que l'Église persécutée est certainement donc une Église beaucoup plus zélée dans le témoignage, c'est qu'il y a la persécution. Il y a la persécution. Nous sommes dans un certain confort. Nous ne voyons pas forcément l'hostilité. Nous ne voyons pas forcément l'opposition. On nous laisse tranquille. Mais si nous voyons vraiment, donc, si nous comprenons la mission que Dieu nous a confiée, que le Christ nous a confiée, alors nous devrions être soucieux de l'accomplir et soucieux d'en faire un sujet de prière, des sujets de prière. Une autre raison de ce changement est en lien avec leur compréhension et leur acceptation, là aussi, que le Seigneur leur a confié la responsabilité de bâtir son Église. Et c'est aussi important. Pas autant, mais pas moins que d'annoncer l'Évangile. Car quand les gens sont sauvés, il faut aussi s'en occuper. Au chapitre 6, les apôtres prennent à cœur que l'on choisisse des diacres. Versets 4 à 6. Puis, ils les consacrent à Dieu en priant. Par la suite, ils consacrent aussi Saul et Barnabas, Saul qui sera Paul, pour les aider pour les laisser partir en voyage afin d'annoncer la bonne nouvelle dans les contrées qui n'ont pas ou peu entendu l'Évangile, chapitre 13. Dans plusieurs nouvelles églises naissantes, Paul et Barnabas établiront des responsables, des anciens, et ils prieront pour eux, chapitre 14, verset 23. Et on pourrait continuer, mais j'arrête là. Quand nous comprenons que c'est le Seigneur Jésus qui bâtit son Église, mais qui ne le fait pas sans ceux qu'il a déjà appelés, sans nous, alors nous ne pouvons que prier, si nous comprenons cela. Nous sommes motivés de prier pour remettre à Dieu son Église, pour qu'il la garde, pour qu'il la bâtisse, pour qu'il la conduise, pour que les décisions qui sont prises en son sein, en son sujet, soient les siennes. Nous ne pouvons que prier pour ceux Nous pouvons que prier pour ceux de son Église, pour ceux qui vont prendre des responsabilités, qui ont déjà des responsabilités. Pour chaque frère et sœur, pour leur croissance spirituelle, pour Dieu bâtit son Église. Mais il attend que nous prenions à cœur de le voir agir, afin que son royaume grandisse dans les cœurs, dans ceux qui sont dans son Église. Il attend que nous ayons le souci de son Église, comme l'avait l'apôtre Paul, et que ce souci génère notre intercession. Seigneur, je te prie pour cela, pour ton Église, pour tel frère, pour telle sœur, agis. La dernière raison de ce changement est en lien avec leur compréhension qu'ils avaient besoin de Dieu pour agir et faire des miracles au nom du Seigneur, afin que Dieu continue à manifester sa miséricorde en faveur des éprouvés. Ils avaient besoin de Dieu pour pouvoir être comme leur Seigneur, des outils, des personnes qui allaient manifester la miséricorde de Dieu. Dans la description de la première communauté de chrétiens donnée au chapitre 2, il est fait mention qu'il se faisait beaucoup de prodiges et de signes ou miracles parmi les apôtres. Verset 43. Au chapitre 9, nous avons décrit un de ces miracles. L'apôtre Pierre se trouve dans la ville de Jaffa. Dans cette ville, il y a donc une femme du nom de Tabitha qui était fortement appréciée par les disciples et les personnes qu'elle aidait. Cette femme tombe malade et meurt. Alors on appelle Pierre pour le supplier d'agir en faveur de cette femme. Il se rend auprès d'elle, il prie pour Dieu pour elle et il la ramène à la vie. Dieu agit donc à travers son apôtre et il ramène cette femme à la vie. Si les apôtres pouvaient accomplir de tels miracles, c'est qu'ils étaient en communion avec leur Seigneur. Ils savaient que si telle était la volonté de Dieu de faire tel ou tel prodige, et ils savaient qu'ils pouvaient s'attendre à Dieu pour que lui agisse. Ils savaient que Dieu devait travailler à travers eux, donc à travers leur personne, pour qu'ils deviennent outils de miséricorde. De même, nous savons que nous pouvons nous attendre à Dieu pour qu'il agisse, même puissamment, en faveur de tel ou tel frère ou sœur ou de telle personne qui ne connaît pas Dieu. Notre souci des autres et l'assurance que le Seigneur peut agir en leur faveur doit nous encourager dans notre intercession. Cela doit nous encourager à ouvrir notre cœur pour présenter à Dieu ceux et celles qui sont dans notre cœur, celles qui sont sur notre route, afin qu'il agisse avec bienveillance à leur égard. Si nous demandons à Dieu d'avoir un cœur d'intercesseur en faveur des saints et des non-croyants, nous pourrons être surpris de consacrer alors bien du temps dans la prière. Pour conclure, en Actes chapitre 6, les apôtres partagent à l'église de Jérusalem donc leur souci de se consacrer à deux services qu'ils voulaient mettre en avant dans leur ministère. Ils voulaient persévérer dans la prière et dans le service de l'annonce de la parole, verset 4. Ils avaient alors compris, ces hommes, l'importance avant tout de la prière. Ils considéraient comme primordial de parler à Dieu des hommes avant de parler de Dieu aux hommes. Et nous, avons-nous compris l'importance de la prière dans notre vie avec Dieu et pour voir Dieu agir à travers nous et dans son Église? Je vous invite à revoir ce qui motivait les premiers chrétiens à persévérer dans la prière pour le désirer aussi, afin d'y attacher aussi de l'importance et développer de plus en plus un cœur d'homme et de femme qui donc sait prendre du temps pour la prière devant leur Dieu, devant son Dieu. En tête à tête, c'est très important, la prière personnelle, mais aussi avec nos frères et sœurs. Père, je te bénis pour donc ta parole qui nous montre ce que tu désires pour tes enfants, pour chacun de nous. Et je te prie, je te remercie pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être en communion avec toi, de rentrer, d'avoir cette possibilité d'être donc devant le trône de ta grâce par Jésus-Christ. Et par ton esprit, être conduit pour t'apporter donc ce que nous avons sur le cœur. Donne-nous d'être ces hommes et ces femmes de prière. Apprends-nous à prier encore plus, Seigneur. Travaille nos cœurs par ton esprit pour que nous comprenions nos manques et que nous puissions donc te les remettre et te demander d'agir afin de persévérer dans la prière comme tu l'attends, l'entends. Amen.